Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis ravi de vous retrouver en ce jeudi de l'Ascension sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons aujourd'hui le pasteur Serge Herbrecht, président de l'UAPM, l'Union d'Assemblées Protestantes en Mission, à Saint-Dié-des-Vosges. L'Ascension. Le Christ s'élève vers Dieu. Il est dit que c'est à la droite du Père qu'il se place. Cette fête de l'Ascension est interprétée par les traditions chrétiennes comme l'humanisation de Dieu et la divinisation de l'homme. Le voile qui séparait l'homme de Dieu est définitivement levé. Désormais, le royaume de Dieu est pour tous. Dieu rejoint l'homme. En Jésus-Christ, la distance qui sépare l'homme de Dieu est définitivement brisée. Le pasteur Serge Herbrecht nous raconte la montée de Jésus-Christ vers son Père.
C'est un jour exceptionnel que nous célébrons aujourd'hui, l'Ascension. C'est la montée de Jésus au ciel pour tous les chrétiens. Nous allons découvrir ensemble cet épisode incroyable et fondateur du christianisme. C'est d'ailleurs une très belle occasion de rendre hommage à Dieu en commençant par un chant de louange. Hosanna, Hosanna, nous accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
La force de vie quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, nous remercions Dieu pour sa présence dans notre vie. Quelle grâce de pouvoir se confier en l'Éternel, ce Dieu puissant, que nous ne pouvons voir de nos yeux, mais qui est présent dans nos cœurs. Nous allons parcourir ensemble un épisode extraordinaire, relaté par la Bible, où des gens ont vu physiquement Jésus, le Seigneur, et d'un seul coup, ils l'ont vu disparaître. Revenons à la genèse de cette merveilleuse aventure, qu'est l'Ascension. Nous avons fêté Noël il y a quelques mois, la venue du Fils de Dieu sur terre pour accomplir sa mission de sauveur. Nous venons de célébrer sa résurrection à Pâques, il y a 40 jours. Et aujourd'hui, nous nous souvenons de son ascension vers le ciel, sa maison. Je ne peux assurément parler de l'ascension sans évoquer au préalable sa mort et sa résurrection. Jésus a vécu parmi nous pendant plus de 30 ans, en chair et en os, lui, le Fils bien-aimé, envoyé par Dieu. Il s'est fait baptiser dans le Jourdain et après que le Saint-Esprit fut descendu sur lui, il a accompli son extraordinaire ministère. Ainsi, Jésus a sillonné sa terre, celle que nous appelons sainte, pour annoncer la faveur de Dieu son Père, pour tous les hommes, pour apporter la guérison aux malades et renvoyer libres les captifs. Mais alors, pourquoi cette fin tragique à la croix, alors qu'il n'a fait que de bonnes choses, me direz-vous? Sa notoriété s'est rapidement répandue. Or, il faut dire qu'elle dérangeait beaucoup les religieux de l'époque. De plus en plus de personnes le suivaient parce qu'il faisait des miracles pour manifester la gloire de Dieu. Un soir, alors qu'il est allé avec ses amis dans un jardin appelé Gethsémané, qui signifie « le pressoir ». Ses détracteurs, assoiffés de haine, sont venus pour l'arrêter. Après un mauvais procès, où Jésus a été maltraité, humilié, frappé de coups et ensuite crucifié sur une croix entre deux brigands, à proximité d'une route très fréquentée, telle qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, verset 7.
Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche.
Ses disciples et ses amis, dans leur désarroi, ont certainement pensé que l'histoire allait s'arrêter là. Et c'est vrai que cela aurait été une fin tragique si l'histoire s'était réellement terminée à la mort de Jésus. Mais heureusement pour eux et pour nous, il y a une suite. Or, trois jours après la mort et l'ensevelissement, le tombeau de Jésus est découvert vide. Il est donc revenu à la vie. Et 40 jours après ce fait extraordinaire, il est remonté au ciel dont il était descendu. Nous allons y revenir. C'est une histoire incroyable. C'est pourquoi je vous propose de faire cette enquête ensemble, Bible en main. Bien entendu, il faut de la foi pour croire ce que l'on n'a pas vu de ses yeux. Dans l'évangile de Marc, nous lisons qu'un jeune homme en blanc informe les femmes venues se recueillir au tombeau que le corps de Jésus n'est plus là. Elles s'étonnent alors de trouver le tombeau vide. Ce jeune homme est sans doute un ange, parce que c'est ainsi que le texte biblique les présente en général, tout de blanc vêtu. Dans l'évangile de Jean, il est précisé que les bandelettes de lin qui enveloppaient Jésus sont posées comme si le corps s'était évaporé. C'est vraiment étonnant. Mais pour Jean, le disciple que Jésus aimait, l'absence du corps est une preuve suffisante. Le Christ est ressuscité. Voyez-vous, si les ennemis de Jésus avaient volé le cadavre, ils l'auraient ensuite exposé pour faire taire les rumeurs de résurrection. De même, si les disciples avaient voulu voler le corps, cela aurait été impossible, car ils en auraient été empêchés par les gardes placés devant le tombeau. De plus, ils n'auraient jamais pu prêcher la résurrection avec autant de conviction. Ils n'auraient pas pu tenir et subir les affres du rejet et du martyre s'ils savaient le corps de Jésus caché quelque part ou s'ils avaient su que quelqu'un l'avait enlevé. Nous découvrons maintenant qu'il n'y avait pas que le tombeau vide comme preuve. Après sa résurrection, Jésus a été vu physiquement par plus de 500 personnes à la fois. C'est l'apôtre Paul qui relate ces événements, plus de 20 ans après, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 6.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts.
Beaucoup de gens ont du mal à croire cela. Cependant, les premiers à avoir reconnu Jésus ressuscité sont deux hommes qui descendaient de Jérusalem après la mort de Jésus. Sur le chemin d'Emmaüs, ces deux compagnons sont accablés. Ils avaient tellement espéré que Jésus serait le Messie attendu, qu'il était venu pour établir le royaume de Dieu et ainsi les libérer de l'oppression de l'occupant romain. En route, un inconnu se joint à leur discussion. C'était le Christ ressuscité, mais il n'en avait absolument pas conscience. Arrivés devant la maison, les deux hommes invitent leurs compagnons de route à les accompagner à l'intérieur. Voici la suite d'après l'évangile de Luc, au chapitre 24. Versets 30 et 31.
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux.
Ce n'est qu'au moment où Jésus rompt le pain que cela devient évident pour eux. Un déclic. Il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu.
Thank you.
Immédiatement après cette révélation, et tandis que le Christ disparaît, les deux hommes se lèvent et s'en retournent aussitôt à Jérusalem. Il semble qu'ils connaissaient bien le lieu où logeaient les disciples, puisqu'ils sont allés sur le champ raconter ce qui vient d'arriver, clamant « Le Seigneur est ressuscité ». À peine terminent-ils leur récit que Jésus apparaît en personne au milieu de tous. Nous apprenons cela dans la suite du récit de Luc au chapitre 24. Dans un autre évangile, Jean précise que Marie de Magdala est également venue informer les disciples qu'elle avait rencontré le Seigneur au tombeau. Ces choses se sont produites quasi simultanément et cela a provoqué une vive émotion dans le cœur de chacun. D'après les différents récits, tout cela s'est passé le soir du troisième jour, depuis la crucifixion, le jour de Pâques. Comment savons-nous que les disciples étaient sûrs que c'était bien Jésus? Pour vous expliquer, je vais me permettre de vous raconter une anecdote. Ma fille s'est lancée récemment dans la peinture artistique. L'une de ses amies lui a commandé un tableau représentant ses deux chiens. Comme les animaux étaient morts, il fallait se baser sur des photographies. Ma fille a spontanément demandé l'avis de son professeur qui lui a déconseillé la commande. Pourquoi ? Parce que le peintre qui n'a pas connu les modèles de leur vivant ne peut restituer une image fidèle des chiens et la maîtresse risque d'être déçue du résultat. En fait, vous ne connaissez vraiment quelqu'un que lorsque vous avez été très proche. Les disciples ont passé plus de 3 ans avec le Seigneur. Ils le connaissaient très bien. Ils pouvaient donc le reconnaître facilement. Pourtant, l'un d'eux ne semble pas encore convaincu car il n'avait pas vu ce que les autres avaient vu. On pense bien sûr ici à Thomas, qui n'était pas présent lors de la première apparition de Jésus vivant. On lui donne donc le bénéfice du doute. Il avait besoin de le voir et de le toucher. C'était certainement un tactile. Lors d'une nouvelle apparition, auprès des disciples, 8 jours après la résurrection, Jésus se retrouve nez à nez avec Thomas. Il lui propose de mettre son doigt dans les trous de ses mains percés par les clous de la croix et de plonger sa main dans le côté transpercé par une lance. Sur ce, Thomas affirme qu'il est certain maintenant que l'homme devant lui est bien le Christ, qui lui dira, d'après saint Jean au chapitre 20, verset 28,
« Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. »
À partir de là, les disciples ont repris courage et ont commencé à témoigner partout avec assurance. J'ai relevé une différence entre Jésus avant sa mort et après sa résurrection. Le corps de résurrection a des caractéristiques autres que celui de l'incarnation. Il est par ailleurs plus performant, si je peux me permettre cette expression. Ainsi, il peut apparaître et disparaître. On pourrait parler de téléportation. Il peut se déplacer d'une ville à une autre, d'un endroit à une autre, instantanément. C'est comme s'il avait un pied sur la terre et l'autre au ciel. Il est réellement en présence de ses disciples, mais en même temps hors de l'espace-temps. Le médecin Luc rapporte ceci dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 3.
Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu.
Durant ce temps, Jésus fait encore de nombreux miracles. Il leur parle du royaume de Dieu afin que quiconque croit ait la vie éternelle en son nom. Malgré toutes ces preuves, beaucoup restent athées ou agnostiques. Pourquoi cela ? Nous croyons tous que Napoléon a remporté la bataille d'Austerlitz, mais ni vous ni moi n'y étions. En fait, les preuves de ce conflit sont relativement peu nombreuses. Mais il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de le mettre en doute. Tout le monde sait que Jules César a dit « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Pourtant, il n'existe qu'un seul parchemin qui rapporte cette citation. En fait, peu de gens se posent la question si cela est la vérité ou non. Mais lorsque l'on parle de Jésus, de la croix, de la résurrection, des miracles, de son ascension, la majorité des gens sont en proie au doute. Beaucoup se disent athées. Je le comprends. Dans les années 80, le journaliste Lee Strobel du Chicago Tribune, qui est un athée confessant, fait une expérience sans précédent. Tout commence avec son épouse, qui fait une rencontre personnelle avec Dieu et devient fervente dans la foi en Christ. Mais son époux Lee ne l'accepte pas. Il pense même qu'elle est tombée dans une secte. En bon journaliste, il décide alors de mener une enquête pour démontrer que la foi chrétienne basée sur la mort et la résurrection de Jésus est le plus grand mensonge de l'humanité. Pendant de longs mois, il mène cette enquête à travers tout le pays et ira même en Israël. Il rencontre les plus éminents théologiens, des érudits de la Bible, des pasteurs, des prêtres, des archéologues, des médecins légistes, des détracteurs, pour étoffer en fait sa théorie. Son désir de détruire la foi chrétienne l'entraîne dans une escalade de plus en plus haineuse. Mais chaque découverte met à mal ses présupposés. Alors que son couple est au bord de l'explosion, un soir, il reçoit un nouvel argument implacable qui l'oblige à abandonner toute sa thèse antichrétienne. Tel Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il tombe à genoux en larmes et reconnaît la toute-puissance de Dieu qui est capable de ressusciter un mort pour sauver l'humanité. À la fin de son enquête, Lee Strobel, journaliste athée convaincu qui voulait détruire la théorie de la résurrection, déclare avec assurance « La seule explication acceptable de tous les aspects de cet événement est que Jésus est réellement ressuscité. » À partir de là, Strobel devient un chrétien convaincu. Son livre, « La parole est à la défense » qui raconte en détail sa quête de destruction du christianisme, est désormais un best-seller vendu à plus de 14 millions d'exemplaires. L'histoire est même devenue un film remarquable, « Jésus l'enquête ». Cette histoire pourrait être celle de chacun d'entre vous. Il vous suffit de chercher et de sonder les Écritures telles que Jésus le précise dans Jean, au chapitre 5, verset 39.
Vous étudiez avec soin les Écritures, parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi.
Le Seigneur accentue ici que ce n'est pas l'Écriture qui sauve, mais qu'elle rend témoignage de celui qui sauve. Cherchez donc le Dieu de la parole, et non pas la parole pour elle-même. Le prophète Ésaïe nous encourage à chercher Dieu tel que nous le voyons dans son livre au chapitre 55 et au verset 6.
Tournez-vous vers le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous.
Beaucoup de gens ne se posent pas la question personnelle de l'existence de Dieu ou non, mais ils se réfèrent à des idées préconçues. Notre arrière-plan religieux, ou son absence, est souvent la raison pour laquelle nous avons peur de nous poser certaines questions telles que « L'existence de Dieu est-elle une réalité pour moi ou non ? Quel est le niveau de ma spiritualité intérieure ? Ai-je une relation avec mon Créateur ? Ai-je pris le temps de le chercher ?» La Bible donne des réponses à qui veut bien creuser un peu. Alors, cherchez et vous trouverez. Nous arrivons maintenant à la révélation de notre enquête pour découvrir l'événement de l'ascension. Après sa mort, il a fait cette promesse importante qui est relatée dans Jean 16, verset 7.
Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Il fallait qu'il passe par cette croix, afin d'envoyer le Saint-Esprit, qu'on appelle aussi le Paraclet, le Consolateur. Ce qui est un avantage certain pour les croyants. Après ce périple de 40 jours, Jésus se retrouve avec ses amis sur le mont des Oliviers. Là, il leur laisse des consignes importantes, mais aussi une promesse. Nous lisons cela dans Matthieu 28, versets 19 et 20.
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
C'est un mandat qui est toujours d'actualité et qui s'applique à tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Ainsi que la promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après cela, il se produit un événement surnaturel. Le clou de l'enquête, relevé dans le livre des Actes, au chapitre 1er, versets 9 et 10.
Après ces mots, les apôtres le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant que Jésus s'éloignait.
Je vous invite à fermer les yeux. Imaginez un instant vivre ce moment d'une intensité rare, unique. Vous êtes assis sur un rocher, sur le mont des Oliviers. Vous avez une vue imprenable sur tout Jérusalem. Un moment de plénitude, couché de soleil magnifique. Vous regardez et entendez un homme exceptionnel. Vous buvez ses paroles. Vos yeux ne le quittent. Pendant qu'il dispense ses recommandations, vous le voyez s'élever tranquillement vers le ciel. Et Luc 24, 50 nous révèle ceci.
Jésus, ayant levé les mains, bénit ses disciples. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel.
Ses mains levées nous offrent une bénédiction empreinte d'une autorité nouvelle qui met un point final à la vie de Jésus sur terre. La bénédiction est tellement complète que ses mains paraissent se vider littéralement sur eux tous. C'est un peu comme pour dire « Recevez tout ce que j'ai reçu du Père ». Une confirmation de la parole. Voilà, tout est accompli sur la terre. Ce devait être un moment glorieux qui va changer l'atmosphère spirituelle à tout jamais. Jésus retourne ainsi à la gloire du Père, d'où il est venu. C'est ainsi que se réalise sa prière, rapportée par Jean 17, au verset 5.
Et maintenant, Père, revêts-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi, avant les origines du monde.
L'ascension du Christ est une réelle victoire sur les ténèbres. Elle marque l'accomplissement et le repos de Jésus après l'achèvement parfait de son œuvre d'expiation, telle que Dieu l'a voulu. Cette œuvre expiatrice a été accomplie en sa mort. Sa résurrection l'a démontré, et son ascension atteste qu'elle est suffisante pour sauver celui et celle qui veut mettre sa confiance en lui. L'apôtre Paul affirme aux Philippiens en 2, 9
« Dieu l'a ensuite souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. »
L'ascension est un événement unique. Parce que c'est un homme en premier lieu qui s'est assis à la droite de Dieu. En effet, Jésus est monté au ciel, non pas en esprit, mais avec son corps humain, ressuscité et glorifié. En cela, il est le précurseur de beaucoup d'autres, tels que nous le soutient Jean dans son Apocalypse au chapitre 3, verset 21.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
Nous pouvons ainsi en conclure que Jésus est le précurseur qui annonce que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin se verront offrir une place à ses côtés. Considérez donc que l'ascension de Jésus est la finalité de l'œuvre de la rédemption. Que Jésus intercède aujourd'hui pour nous assis auprès de Dieu son Père, tel que cela était au commencement. Prenez soin de votre âme.
Protestant de ce matin sur France Culture s'achève. En quête d'ascension, c'était le thème du pasteur Serge Herbrecht, président de l'UAPM, l'Union d'Assemblées Protestantes en Mission, à Saint-Dié-des-Vosges. Un grand merci à vous pour votre écoute, à la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Marie Lepeintre, lecture Marie-Jo Alvarez. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération Protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation et télécharger le texte? Je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. À suivre sur France Culture, la messe catholique. Belle journée à tous et à chacun.